Ce qui me frappe toujours dans cette lettre aux Philippiens, que l'apôtre Paul adresse aux Philippiens, c'est cet appel à la dignité. Verset 27 du chapitre 1, « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile ou conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Et je trouve ce verset très, très motivant, ouais, et en même temps un petit peu difficile parce que la notion de dignité n'est pas toujours facile à manier. Alors pour les gens du peuple comme nous, comme moi, la dignité est liée, enfin on l'utilise souvent ce mot digne ou indigne pour parler des grands de ce monde qui se sont montrés indignes de leur fonction, de leur statut. On est prêt à mettre au pilori les politiques jugés indignes. Oh, ça, c'est pas digne. Et puis, autre difficulté avec la dignité, c'est la question des critères. Ce qui est indigne chez l'un ne le sera pas forcément chez l'autre. Pour certains, l'indignité suprême serait de ne pas mettre une cravate à l'Assemblée nationale. Pour d'autres, l'indignité, ce serait d'engager sa femme et ses enfants dans des emplois fictifs. À chacun son indignité, surtout chez les autres d'ailleurs. Mais quand la Bible nous parle de dignité, elle s'adresse à nous d'abord, et ensuite elle énonce le critère. Il s'agit de la dignité par rapport à l'Évangile, de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Et le critère est nettement énoncé, c'est l'Évangile et c'est donc pas du tout une notion relative. Et on verra tout de suite ce que cela peut signifier dans notre vie. Mais en tout cas pour nous, il me semble que la question de la dignité est une question importante et pour deux raisons. D'abord, pour une raison de contexte, c'est que cet appel à la dignité dans Philippiens 1, 27 suit cette énorme phrase de Paul dans Philippiens 1, 21 que l'on a vue et revue à l'époque d'Alpha Plus quand on étudiait Philippiens. Quand Paul va dire « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Où il y a, on a vu qu'il y a chez Paul une aspiration vers le ciel. Il n'a pas le mal du pays, Paul, il a le mal du ciel. Il se sent comme aspiré vers le ciel, mais c'est étonnant quand on lit Philippiens 1, c'est que plus il parle de la mort possible, probable pour lui, parce qu'il vit une période difficile, plus la pensée de vivre sur cette terre prend le dessus. Et donc la question qui se pose pour Paul et les Philippiens est de savoir comment, tout en ayant les yeux fixés vers le ciel, comment vivre sur cette terre. C'est comme si Paul disait « bon, le ciel attendra peut-être ». Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen du ciel? Eh bien, on va essayer de se conduire dignement. Et cette question de la dignité dans la vie chrétienne est d'autant plus importante, bis, que Paul n'en est pas à son premier appel, on le trouve autre part, dans Colossiens 1, 10, « Je prie pour vous, pour que vous ayez une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. » Ou Éphésiens 4, 1, « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Digne de l'appel. Digne du Seigneur. Pour Paul, inspiré par le Saint-Esprit, cela semble vraiment important que les chrétiens se comportent dignement. Alors, on l'a vu dans l'appel aux Colossiens, c'est digne du Seigneur. Dans l'appel aux Éphésiens, c'est digne de l'appel. Pour les Philippiens, digne de l'Évangile. L'Évangile tel qu'ils l'ont reçu, c'est-à-dire l'Évangile d'une nouvelle appartenance à Jésus-Christ, une nouvelle vie en lui, une nouvelle citoyenneté en lui, et cela apparaît clairement dans la version du Semeur que nous avons lu tout à l'heure, mener une vie digne de l'Évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume. Dignité en tant que citoyen. Et ce que Paul veut dire ici, c'est que vous êtes, Philippiens, nous sommes, Palois, citoyens du ciel, citoyens du royaume des cieux. Quant à nous, Philippiens 3, 20, notre citoyenneté est dans les cieux. Et on y est rentré dans ce royaume par la grande porte qui s'appelle Jésus-Christ, par l'Évangile, qui est en fait la bonne nouvelle de l'entrée dans le royaume, par la foi. Vous avez un nouveau statut, une nouvelle identité, soyez-en dignes. D'autant plus qu'on pourrait ajouter sur cette carte d'identité, sur cette nouvelle citoyenneté, vous avez été adoptés. Vous êtes des fils et des filles et des fils adoptives, adoptifs, justifiés, pardonnés, blanchis. Vous êtes maintenant héritiers du royaume, du ciel. Et bien maintenant, conduisez-vous dignement, c'est-à-dire vivez votre vie en rapport avec cette citoyenneté, en conformité avec elle. Et on pourrait utiliser ce mot peut-être plus actuel, en cohérence avec cette citoyenneté. Et si Paul utilise ce verbe et cette idée de citoyenneté, c'est qu'il sait que les Philippiens y sont sensibles. Les Philippiens habitent la bonne ville de Philippe, en Macédoine, au nord de la Grèce. Et c'est une ville à majorité de Romains, de langue latine. Et ils ont leur propre gouvernement, leur propre sénat, leur propre capitole. Philippe est une sorte de... La ville de Philippe est une sorte de mini-Rome. Et le Philippien moyen est fier de sa citoyenneté philippienne. Et quand on leur dit « Soyez dignes de votre citoyenneté du royaume, comme vous êtes fiers d'être philippiens », ça les touche. Ah oui, c'est vrai. Ça toucherait peut-être les Basques aussi, qui sont un peu fiers d'être basques et tout ça. Eh bien, soyez fiers pour les chrétiens basques d'être citoyens du royaume comme vous l'êtes pour votre citoyenneté basque. Je ne parle pas des Béarnais, c'est un peuple à part. Ça voulait dire quelque chose pour eux, les Philippiens, citoyens de Philippe. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que nous sommes sensibles à cette question de dignité ou de cohérence par rapport à notre citoyenneté céleste? Est-ce que nous pensons jamais à nous comporter dignement par rapport à l'Évangile, cette entrée dans le royaume? Et donc cette question de la dignité, c'est synonyme en particulier la cohérence, la conformité. On pourrait être un peu, petit peu gêné. C'est ce que je disais au tout début, la dignité, c'est un peu troublant comme notion parce que nous avons des situations ou des moments dans notre vie qui nous viennent à l'esprit où nous n'avons pas toujours été dignes. Des situations où nous n'avons pas tout à fait été en cohérence avec l'évangile que nous professons. Des situations où par peur, par faiblesse, par sécurité, par confort, on a pris un peu la tangente. On a usé de dissimulation par rapport à sa foi. On a joué sur l'ambiguïté, voire l'ambivalence. On n'a pas vraiment été sel et lumière. Ou alors un sel un peu fade. Ou une lumière franchement atténuée. Bref, on n'a pas été cohérent par rapport à l'évangile que nous professons. Oui, la question de la dignité nous gêne, mais elle nous amène aussi à venir devant Dieu avec beaucoup d'humilité, devant le trône de sa grâce. Comme le fils prodigue, qui, sur son tas de... Un tas de quoi il est ? Un tas de détritus, rentre en lui-même et se dit « Je vais rentrer chez mon père parce qu'ici, ça le fait pas. » Et il cogite et il dit « Je vais dire à mon père, parce que je le pense, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il prépare sa phrase chemin faisant et il arrive là et il dit sa phrase qu'il a préparée de longue date. « Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et son père le coupe tout de suite et lui prépare une fête et l'habille de sa grâce et de son pardon. Ce sentiment d'humilité qui est tellement prégnant chez le fils prodigue et qui lui permet d'être vêtu du pardon, de la grâce de Dieu. Et cette histoire du fils prodigue, c'est notre histoire. Nous étions indignes et Dieu nous a rendus dignes par sa grâce et son pardon. Et j'imagine que le fils prodigue, après, s'est dit maintenant, Je vais être digne de mon statut de fils. Je vais vivre dignement. Et nous sommes également appelés à mener une vie digne de cet évangile de grâce et du pardon de Dieu qu'il nous offre en Jésus-Christ. Mais comment le vivre concrètement? Et je vous propose de voir dans le passage même, parce que la Bible explique la Bible, et de regarder dans ce passage trois zones, j'ai eu du mal à trouver des mots pour trois zones de dignité ou trois champs d'application possibles pour une vie digne de l'Évangile. Et la première de cette application, Philippiens 1, 27, « Afin que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon. » Tenir ferme. Une subordonnée à vivre une vie digne de l'Évangile, et j'aimerais apprendre que vous tenez bon, tenez ferme en restant attaché au Seigneur, et il le répète en 4.1. Il s'agit donc de rester bon, de tenir bon dans la foi, solidement planté dans la foi, attaché au Seigneur, amarré à lui. Et avec ce verbe, dans le grec, on rentre dans le vocabulaire sportif ou militaire du combat. Techniquement, cela veut dire ne pas céder un pouce de terrain à l'adversaire. Et pour la dernière fois peut-être, je pourrais faire référence au rugby, parce qu'à Cannes, il ne joue pas à ce sport d'une grande noblesse. Le rugby, le combat à la mêlée, où il s'agit de gagner le ballon introduit en poussant, sans reculer évidemment, sans perdre un pouce. Et on s'accroche à la pelouse, au grand désespoir du jardinier d'ailleurs, du stade. Mais on fait un point, on a un point. Les rugbyman, les vrais, les avants, les packs, les gros, ils mettent un point d'honneur à ne pas reculer pour être dignes de leur maillot. Et la suite nous dit, sans se laisser intimider en rien par les adversaires. Et là, on a les Néo-Zélandais qui nous mettent une raclée à chaque fois, voire les derniers test match, hein, et qui font ce haka au début. Je ne vais pas vous faire le haka, mais ils sont. On peut être costaud de peser le quintal. On est impressionné devant ces Néo-Zélandais. Mais être digne de l'Évangile, c'est rester ferme malgré les intimidations de l'adversaire. Et Paul sait de quoi il parle quand il parle des adversaires. À Philippe, il a reçu une bastonnade en bonne et due forme. Il s'est fait battre à coups de bâton. Il a été jeté en prison. Et 10 ans après, parce que la lettre date de 10 ans, après sa visite à Philippe, ils doivent encore subir des pressions difficiles dans cette même ville. Les adversaires de Paul sont les adversaires de l'église de Philippe, et ils sont intimidants, et nos adversaires sont intimidants aujourd'hui, et peut-être sous une autre forme. Et les adversaires, on pourrait plutôt parler d'adversité, c'est-à-dire des vents contraires, des choses qui viennent contre nous, une période troublée, que nous traversons et qui pourrait être intimidante. Mais être digne de l'Évangile, c'est rester ferme, c'est faire des trous dans la terre et rester planté sur sa foi, dans sa foi. C'est une question de dignité. Je me souviens d'une conversation avec une jeune femme de mon âge à l'époque, à Bruxelles, qui était chrétienne, mais qui était une chrétienne dépressive, une dépression chronique. Elle est toujours dépressive. Et à la fin de sa tirade elle me parlait de sa dépression, que ça n'allait pas. J'avais pas grand-chose à dire. J'écoutais. Et j'ai juste dit, et maintenant? Et cette femme m'a dit, Ariane, elle s'appelait. Elle m'a dit, alors tant pis, je m'accroche. Et je reste ferme. Je tiens. Les sentiments ne sont pas là, le psychique ne suit pas, mais tant pis, je tiens ferme. Et j'ai trouvé cette réponse tellement digne. Une personne dans l'adversité, avec des vents contraires récurrents, qui tient ferme malgré tout. Et je ne sais pas à travers quelle période d'adversité vous passez. Je ne sais pas non plus le niveau d'intimidation que vous devez supporter. Et moi, je veux en rien sous-estimer les difficultés de la course de la vie chrétienne, hein, de la vie tout court. Mais l'appel de Dieu est pour nous, soyons dignes de l'Évangile en restant fermes. Ne nous laissons pas intimider. Accrochez-vous, accrochons-nous avec les dents, mais restons dignes. Et vous savez, quand cette jeune femme, à l'époque, m'a dit cela, j'ai eu, grâce à elle, un sentiment de fierté d'être chrétien. La persévérance digne des autres est une source d'encouragement et même de fierté personnelle. Et Paul le dit en Thessaloniciens 1,4, « Nous exprimons notre fierté en ce qui vous concerne à cause de votre persévérance. » La dignité de l'autre dans la persévérance nous rend fiers de notre citoyenneté céleste. Il y a vraiment une puissance dans cette persévérance, une puissance peut-être à redécouvrir pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et deuxième zone de dignité, le fait de combattre ensemble, combattant ensemble pour la foi de l'Évangile, verset 27. Et encore une fois, on rentre dans le domaine du sport, mais là, il s'agit de lutter ensemble. Et ce mot allait à donner athlétique. Et là, littéralement, il s'agit d'athlétiser ensemble, athlétisant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Dans un même esprit, d'une même âme, c'est-à-dire complètement ensemble, être d'accord sur le fond et être d'accord dans l'action aussi. Avancer ensemble. Et peut-être que Paul, en s'adressant aux Philippiens, voulait leur faire penser à la fameuse phalange macédonienne, c'est-à-dire de ces rangs serrés de soldats armés de lances qui avançaient en groupe compact sur les champs de bataille de Philippe de Macédoine ou d'Alexandre le Grand. Une spécialité macédonienne, la phalange. Et le Robert écrit « La phalange, deux points, groupe dont les membres sont étroitement unis. » On se souvient des phalanges libanaises ou des choses, les phalangistes du Liban. Mauvais exemple peut-être, mais et si l'Église, et si vous entriez dans la phalange de l'Église pour combattre ensemble et rester ensemble, il ne s'agit pas de jouer au franc-tireur. Il s'agit d'être proches les uns des autres. Et quand Paul nous invite à combattre ensemble, il nous invite par là même à laisser nos petits combats personnels au vestiaire, en même temps peut-être que notre ego. Et je remarque que ces appels à l'unité, il les lance à des églises locales, pour les gens de l'église locale. Il ne lance pas d'appel à l'unité entre les églises du monde entier, c'est toujours bien. Mais c'est à l'église locale que ces appels s'adressent. Unité de proximité, une unité proximale où on peut se toucher, où on se serre les coudes comme dans la phalange macédonienne. Il y a Calvin qui disait... Comme pour les phalanges, regroupons-nous derrière le bouclier de la foi, ensemble, avec une force de pénétration irrésistible et un témoignage puissant, l'unité, on sait l'impact qu'elle peut avoir. Une unité de proximité, voilà, qui est digne de l'Évangile. Et je me dis que dans cette Église, comme dans toutes les Églises, il y a peut-être pour l'un ou pour l'autre une démarche à entreprendre, un pardon à demander ou à accorder, une ouverture à faire, une réconciliation à mener, un signe de douceur ou de maîtrise de soi à démontrer, pour être plus unis, pour avoir plus d'impact, pour vivre cette unité, pour avancer dans le champ de bataille de ce monde. Ça, c'est digne de l'Évangile. Et puis, dernier point, troisième zone de dignité, j'ai laissé le meilleur pour la fin, il s'agit de souffrir. Souffrir dignement. Et ça apparaît au verset 29. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagé dans le même combat que moi. Et le mot grec se dit pour souffrir, se dit agone. Donc ça c'est pour combat en fait. Agone, qui a donné agoniser. Souffrir, agoniser, on nage en plein délice, n'est-ce pas? Et on voudrait y échapper à la question de la souffrance, et j'ai même pensé supprimer ce point pour ne pas alourdir, on est dans les vacances, flûte. Mais cette pensée est tellement collée à l'Évangile, elle est tellement collée à la vie chrétienne, qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et qu'on le veuille ou non, la souffrance, l'adversité, Les adversaires, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, apparaissent au cours de sa vie chrétienne, tôt ou tard, en ordre dispersé, ou en série parfois même. Ils sont là. Il y a des vents contraires dans la vie avec Dieu. Il y a des zones dépressionnaires dans la vie avec Dieu. Il ne s'agit pas de les rechercher et jouer ni au kamikaze, ni au maso. Mais elles sont là. Elles sont même une preuve de salut, dit Paul au verset 28. Signe que nous sommes fils et filles de Dieu. Elles font partie intégrante de la vie chrétienne, mais la bonne nouvelle, si c'en est une, vous apprécierez, c'est qu'il peut y avoir de la dignité dans la souffrance. Et qu'il est donc possible de souffrir dignement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, est-ce que ça veut dire qu'il s'agit de ne pas pleurer quand on vous fait du mal, comme on l'apprend au petit garçon qui ne pleure jamais parce que c'est un petit garçon, ou c'est un garçon, ou un homme? Non. S'agit-il de ne jamais se plaindre comme si de rien n'était non plus? Jésus ne nous demande pas d'être des super-héros super-heureux, mais il nous offre de voir la souffrance comme un privilège, c'est dans le texte. Une grâce, même. Il nous fait la grâce de souffrir, mais pas un privilège dans le vide, un privilège par rapport à Christ, en direction de Christ. Au verset 29, cette direction est exprimée deux fois. En ce qui concerne le Christ, de souffrir en ce qui concerne le Christ, à cause de Christ, et pour lui, en direction de Christ. Et quelqu'un faisait remarquer que la plupart du temps, nous trouvons dans les lettres de Paul la pensée inverse. C'est Christ qui a tout fait pour nous. Mais ici, tout d'un coup, nous pouvons faire quelque chose pour lui, lui renvoyer l'ascenseur. C'est souffrir pour lui, pour lui offrir notre souffrance ou pour lui diriger notre souffrance. Et la dignité de la souffrance se situe dans la direction qu'elle prend pour ce « pour lui », quand elle est dirigée vers Jésus, quand elle est acceptée comme une communion avec lui. Dans la souffrance, comme une participation à Christ. Alors elle prend toute sa dignité, un peu comme la souffrance de l'accouchement prend toute sa dignité quand elle est dirigée vers sa finalité, l'enfant qui va naître. Mais que l'on soit un baby-boomer comme moi, ou quelqu'un de la bof génération comme ceux qui ont suivi le baby-boom, ou encore de la génération X, ou Y maintenant, non, je pense qu'on est où maintenant, je ne sais plus. Mais, quelles que soient les générations, on n'est pas préparé à la souffrance. Pourtant, toutes les générations souffrent. Mais on n'y est pas préparé, on n'a pas appris. Et il y a là, pour nous, chrétiens du XXIe siècle, une leçon, apprendre à souffrir dignement. Souffrir sans perdre espoir. Souffrir sans tout envoyer balader. Souffrir sans maudire. Souffrir sans amertume, souffrir sans sombrer, apprendre à souffrir dignement. Et ce serait aussi un témoignage puissant pour notre génération qui ne sait pas quoi faire avec la souffrance. Le défi de la souffrance, accepter dignement. Et nous avons des modèles, des beaux modèles aujourd'hui. Il y a Nick Vujicic. C'est comme ça que ça se prononce. Vujicic. Ah, oui, je crois que j'ai oublié un O peut-être. Bon, bref. Et il était au rassemblement des jeunes évangéliques l'année dernière au Havre. C'est un Australien qui, sans explication médicale, est né sans bras et sans jambes. Et il a fondé une association. Et il proclame qu'au sein même de la souffrance, Dieu peut être glorifié. Il est passé à travers, durant son adolescence surtout, à travers plein de souffrances. Et voilà ce qu'il dit sur son site, je trouvais ça très beau. « Si Dieu peut utiliser quelqu'un sans bras ni jambes, alors il peut aussi t'utiliser toi, si tu lui donnes ta vie. » Une vie de souffrance peut être utilisée par Dieu, glorifiée en Dieu, et glorifier Dieu à partir du moment où on la lui donne, où on la lui offre. Et moi, j'avais pensé à... Je pensais aussi à Johnny, qui est cette héroïne de la foi dans la souffrance des années 80, dont j'ai beaucoup parlé ici, il me semble. et qui m'a beaucoup inspiré avec ses deux ou trois livres. Et on les voit tous les deux, là, Johnny et Nick, avec un crayon dans la bouche. Johnny peint et Nick écrit. Tous les deux des héros de la foi dans la souffrance. Et je les aime. Et vous savez qu'en 2012, ils se sont rencontrés. Vous avez Johnny, là, la blonde, et Nick, à l'extrême gauche, tous les deux mariés. Et j'ai vu aussi sur Internet que Nick et Tadé, je pense, sa femme, ont deux enfants. Mais je trouve ça beau de voir cette héroïne de la foi des années 80 et ce héros de la foi dans la souffrance des années 2000, Nick, qui témoignent tous les deux dans la souffrance du changement radical dans leur vie, dans leur attitude, dans leur vie, rendu possible par Jésus-Christ, quand les héros se rencontrent. Le défi que nous lance Paul par Philippiens interposé s'adresse à tous ceux qui manquent un peu de dignité, dont je suis moi le premier, qui seraient un peu en décalage par rapport à leur identité, citoyenneté. La Bible nous dit un peu de dignité, voyons. Tenir bon, rester ferme, combattre ensemble, proches les uns des autres, unis dans un même esprit, accepter aussi la souffrance en la dirigeant vers Christ. Et le monde saura que Christ est Seigneur par cette vie digne de l'Évangile, digne de l'appel de celui qui nous a rendus dignes de nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Amen.